des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour la seconde partie de notre émission consacrée au bois. Sujet vaste, nouvelle star de la construction bas carbone. Alors, vous vous souvenez peut-être que notre émission de janvier était consacrée à la forêt, donc aux sources originelles du bois. Et nous avons alors exploré le bois vivant et les différentes philosophies de gestion de la forêt, avec des différences notables entre les continents, en Europe du Nord, en Amérique du Nord aussi. Et aussi les défis du changement climatique sur nos forêts, comment s'y préparer, comment augmenter par la reforestation la capacité de stockage de carbone. Alors, le carbone, justement, parlons-en, car c'est sur ce sujet de la réduction des émissions de carbone dans la construction que l'émission d'aujourd'hui se focalisera, avec le retour en force d'un matériau ancestral, le bois. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui avec nos invités sur cette question. Alors, entre Graal du matériau naturel 100% renouvelable et besoin massif de construction, où se trouve la ligne entre utopie et principe de réalité ? Mes invités en plateau seront tout d'abord Jacques Bouillot, directeur de la filière sèche d'Eiffage Construction.
Bonjour.
Et Christophe Ouayoun, directeur général du cabinet COS Architectes, qui est également urbaniste.
Bonjour.
Sans compter, comme à l'accoutumée, quelques interviews savamment préparées par l'équipe de Radio Immo, Éric Cala et Clément Lebas.
Des villes et des hommes, le débat, première partie.
Alors Jacques, tout d'abord, je voudrais que vous nous parliez des différents produits transformés du bois qui entrent dans les nouvelles méthodes constructives. Il en existe déjà plusieurs et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que ce matériau très ancien est aussi une source d'innovation puisque des brevets sont régulièrement déposés, notamment pour gagner le défi de la hauteur dans les constructions bois. Alors, ces méthodes constructives sont revisitées aujourd'hui à l'aune des besoins de densification urbaine, mais aussi à l'aune des besoins de rapidité accrue dans la construction et des attentes en matière écologique et de confort. Est-ce que vous pourriez nous éduquer en quelques minutes sur les 4 ou 5 principales transformations du bois qui ouvrent des perspectives concrètes en matière de construction ?
Moi, je vois 4 grands procédés qui sont aujourd'hui utilisés de façon récurrente. Le premier, c'est le lamellé-collé qu'on utilise en poutre ou en poteau. Donc là, ce sont des morceaux de bois qui sont collés les unes aux autres dans le sens de la fibre. Le CLT, alors c'est un peu le même principe, sauf que les fibres sont croisées, donc on arrive à faire des grands panneaux.
Vous pouvez nous rappeler ce que veut dire CLT ?
Alors, cross laminated timber.
Ok.
Donc, c'est un procédé qui nous permet d'avoir des panneaux qui peuvent faire 3 mètres jusqu'à 18 mètres de long par différentes épaisseurs, allant de 10 cm à peut-être 30 cm, c'est tout à fait possible. Un troisième procédé qui est le mur ossature bois. Alors qui se décline en 2 composantes, le mur ossature bois dit structurel et puis la façade ossature bois. Et puis le lami bois, donc autrement appelé LVL, qui lui consiste à dérouler une grume pour coller chaque feuille les unes aux autres. Et ce qui permet d'avoir un matériau qui a des caractéristiques en termes de compression en particulier très très intéressantes. Et c'est un produit de haute technologie.
Alors Jacques, juste une petite question. Vous avez parlé notamment des façades à ossature bois.
Oui, tout à fait.
Alors je vous interromps parce qu'il me semble qu'il y a un exemple tout récent de mise en œuvre de la façade à ossature bois. C'est la tour Hyperion à Bordeaux qui a été conçue par le cabinet d'architectes de Jean-Paul Viguier. Vous pourriez nous en parler un petit peu de Hyperion ?
Alors Hyperion, c'est un bâtiment qui fait qui se met à la limite de l'IGH, c'est-à-dire il a 50 mètres de haut. Le noyau est en béton, les planchers sont en CLT, donc on retrouve le premier matériau que j'ai évoqué. Les poteaux et les poutres, en tout cas certains poteaux et toutes les poutres sont en lamellé-collé. Et puis les façades sont en ossature bois. Donc pour réaliser ce projet, on a fait monter le mur ossature bois évoluait historiquement dans des zones allant jusqu'à 4-5 étages. Et là, pour cet ouvrage, on a fait monter, d'un point de vue réglementaire, la façade ossature bois jusqu'à 50 mètres de haut.
C'est-à-dire que vous avez des ATEX en cours avec le
Alors on a réalisé un ATEX de type A.
Donc, vous rappelez ce que ça veut dire ATEX, autorisation.
Alors, ATEX, c'est un avis technique expérimental qui permet de garantir un certain nombre de processus lorsqu'on développe un produit. Et puis qui est opposable à un bureau de contrôle qui lui-même va donner l'assurabilité du bâtiment.
Donc finalement, sur Hyperion, il y a pas mal de brevets, il y a pas mal de combinaisons entre les différentes solutions constructives bois, et puis il y a aussi des avis techniques.
Mais c'est souvent le cas dans de nombreux ouvrages, on va mélanger justement toutes ces techniques.
Une petite question, Jacques. Nous avions vu lors de la première émission que la forêt française est composée à 70% de feuillus. Or, ici, ce sont plutôt les résineux qui sont recherchés.
Oui. Alors, historiquement, la construction bois en France, mais c'est un peu partout en Europe, est réalisée avec du résineux. Alors, résineux de provenance bois du Nord, Allemagne, Autriche, et puis également en France, bien sûr. Et là, on retrouve les essences comme l'épicéa, le pin, le douglas, pour l'essentiel. Et ça représente, dans la construction aujourd'hui, plus de 90% des essences employées.
Très bien. Alors, vous abordez le sujet de la traçabilité du bois. C'est un sujet extrêmement important parce que finalement, un bâtiment considéré comme écologique uniquement parce qu'il a recours au bois, c'est peut-être un peu un raccourci facile. Encore faut-il savoir d'où vient ce bois. Est-ce qu'il provient de forêts qui ont été gérées durablement? Est-ce qu'un plan de reforestation est prévu? D'où vient-il? C'est-à-dire que le bilan carbone transport de ces bois importe également. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, les filières constructives bois en France sont organisées du point de vue de la traçabilité? Je sais qu'on avait vu le sujet avec notre expert suisse, Gilles Dana, qui représentait le cabinet de traçabilité Product DNA. Quel est votre avis sur le sujet, Jacques?
Alors, il y a déjà des choses qui existent au travers des labels. On a le label PEFC, le label FSC. Mais est-ce que ça suffit à savoir d'où vient le bois qu'on va utiliser? Je ne le pense pas. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même un point de faiblesse de la filière de ne pas être en mesure à tout instant de fournir à son maître d'ouvrage, à son client, l'origine de son bois. Alors, nous, de notre côté, en particulier sur Hyperion, on s'est engagé à mettre 100% de bois régional. Et donc là, on a mis en place une étiquette de traçabilité qui nous permet de garantir, en l'occurrence à Euratlantique, qui est à l'origine de cette commande, l'origine du bois et de sa région.
Votre étiquette bois de traçabilité, Jacques, elle est certifiée par un tiers, donc?
Oui, tout à fait. Donc c'est l'entreprise Product DNA qui fait un audit dans lequel on ne s'immisce pas et donc qui est tout à fait neutre par rapport à ces documents.
Très bien. La question qui se pose, finalement, vous avez partiellement déjà répondu, mais est-ce que la filière française du bois matériaux de construction est aujourd'hui réellement mature, notamment pour alimenter les besoins en bois des différentes solutions constructives que vous avez exposées tout à l'heure? Alors, on a cherché à en savoir un peu plus en interrogeant Romain Canler. Romain Canler est le président de l'Union des industriels et constructeurs de bois, l'UICB. La parole est à lui.
Bonjour Romain Canler, vous êtes délégué général de l'Union des industriels et constructions bois.
Bonjour.
Alors, on a quelques questions à vous poser pour cette émission des villes et des hommes. La première, c'est: la recherche de matériaux bas carbone fait-elle progresser la filière ou bien celle-ci est-elle en surchauffe actuellement?
Écoutez, bien évidemment, hein, la recherche d'un acte de construire émettant le moins possible de carbone et globalement, généralement, de gaz à effet de serre, fait progresser la filière. On sait que le matériau bois est une solution adaptée pour une construction bas carbone, et qu'elle est une des solutions privilégiées pour atteindre cette neutralité carbone qui est l'objectif des pouvoirs publics d'ici 2050. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a surchauffe? Pas véritablement, puisque nous sommes en phase de progression assez soutenue, hein, des marchés de la construction bois. Mais il existe des capacités de production réelles. Et aujourd'hui, si la construction bois progresse, elle est encore assez loin d'être en surchauffe.
Quelles sont les conditions à réunir pour que le bois soit réellement performant du point de vue environnemental?
Alors, le bois, comme je le disais, est assez naturellement un bon matériau d'un point de vue de l'environnement. Il permet de stocker le carbone, c'est un matériau qui est renouvelable, c'est un matériau vivant qui est aussi confortable et bon pour la santé des occupants. Donc, il a effectivement des caractéristiques plutôt favorables à l'environnement naturellement. Ceci dit, pour réaliser tout à fait les potentialités du bois, pour que ses qualités environnementales s'expriment à plein, il y a en effet plusieurs conditions à respecter. Alors déjà, en amont, c'est-à-dire qu'on va prélever le bois, plus les pratiques sylvicoles, plus les pratiques de coupe, les pratiques de transport sont vertueuses, c'est-à-dire qu'on est dans des logiques de sylviculture respectueuse des sols, respectueuse des territoires, plus effectivement le matériau bois a un impact environnemental positif. Et puis, en aval de la chaîne, lorsqu'il s'agit de construire le bâtiment, plus celui-ci est éco-conçu dès le départ, donc c'est-à-dire plus il est pensé pour être un bâtiment, encore une fois, haute performance environnementale, plus le bois sera un outil intéressant d'un point de vue environnemental. Donc si ce bâtiment est éco-conçu avec des notions de, par exemple, d'aération ou de ventilation naturelle, par exemple, en retenant certains principes de bioclimatisme, etc. Là, le bois est véritablement un levier très intéressant en matière de performance environnementale. Donc, on a vraiment deux aspects pour que le bois réalise tout son potentiel d'outils au service de l'environnement. D'une part, en amont, il faut que la ressource, lorsqu'elle est prélevée en forêt, le soit de manière environnementalement, écologiquement le plus responsable possible. C'est-à-dire, encore une fois, qu'on replante les arbres, que lorsqu'on les coupe, on le fasse dans de bonnes conditions pour l'environnement et pour les sols. Et puis, en amont, quand on intègre ce bois dans le bâtiment, il faut vraiment que ce bâtiment soit conçu en respectant un certain nombre de principes d'éco-conception. Et c'est à ces conditions-là que le bois devient l'outil véritablement très intéressant qu'il est naturellement au service de l'environnement.
Merci beaucoup Romain Coller, je rappelle que vous êtes délégué général de l'Union des industriels des constructions de bois, d'avoir répondu aux questions pour l'émission des Villes et des Hommes.
Merci.
Alors Jacques, une réaction au propos de Monsieur Coller?
Peut-être un petit complément, hein, parce que ce qu'a dit Romain Coller est tout à fait pertinent. Un petit complément par rapport à l'aspect surchauffe, c'est que je pense que pour qu'il y ait surchauffe, il faut également que l'ensemble de la corporation accompagne ses produits en termes de réglementation. Et aujourd'hui, le bois a certaines limites qu'il faut franchir. Donc, c'est ce qu'on a vu sur Hyperion. On passe pas comme sans difficulté de 3 étages à 50 mètres. Et donc, il y a encore un travail de fond à réaliser, tant sur le produit bois que sur tous les produits périphériques au bois. C'est peut-être même ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un point d'achoppement non négligeable qui est déterminant dans le processus de marché ou en tout cas de développement du bois sur le marché.
Il y a aussi une question de normalisation, j'imagine.
Oui, alors, je mets tout ça dans le même panier, en fait, entre réglementation, normalisation, les avis techniques, etc. Oui.
Très bien. Oui. Alors, on va en parler ultérieurement, notamment avec une intervention du CSTB, mais en préalable, il y a une question qui me taraude un peu. C'est que finalement, le recours au bois comme matériau ne se décrète pas. Il concerne les architectes, bien sûr, mais aussi les aménageurs. Et finalement, tout le monde doit se sentir à l'aise avec le recours au matériau bois pour travailler au mieux ce matériau au mieux des qualités qu'il offre. Alors Christophe, vous venez de finaliser un très bel ouvrage, Christophe Wayoun, hein, qui est donc le directeur général du cabinet Cause Architectes, un très bel ouvrage dans l'île au bois de Strasbourg. À votre avis, quelles sont les motivations des aménageurs à suggérer des ouvrages en structure bois?
C'est vrai qu'en France, moi j'en parle en connaissance de cause, parce qu'on a passé, ça fait 20 ans qu'on fait du bois, on a passé les 15 premières années de notre exercice, à proposer des projets en bois quand on ne nous demandait rien. C'est-à-dire quand, par défaut, ils étaient conçus en béton, on a perdu 30 concours d'affilée. Donc ça, c'est très symptomatique de la commande. Parce que ce n'était pas le moment, parce que les consciences n'étaient pas encore éveillées, parce que le marché n'était sans doute pas mûr. Mais bon, c'était cet acte militant qui, sans doute, a fait bouger les choses. Aujourd'hui, on répond à des questions qui nous sont posées. Les architectes, les aménageurs font ça. C'est-à-dire que si nos élus légifèrent, prennent des décisions, ont des envies politiques, il y aura des réponses pertinentes. Sinon, il n'y aura rien. Enfin, c'est un peu abrupt ce que je dis, mais il faut des gens militants et il faut aussi des élus qui sont concernés. Et aujourd'hui, le marché est en train de mûrir.
Est-ce que, Christophe, vous pourriez dire que la commande publique doit pleinement jouer son rôle pour fixer le cap et lancer les pompes qui ne seraient pas encore lancées, si je puis dire?
Oui, on est dans un pays où la conscience collective existe. Malgré tout, pour que les choses adviennent, il faut légiférer. Enfin, je veux dire, oui. Ça vaut pour la prévention routière comme pour la construction bois. C'est-à-dire que si on prend des décisions en disant le carbone, c'est un sujet central dans la construction. La filière construction est très engagée dans la filière carbone. Il faut prendre des décisions, il faut qu'on légifère. Ça met le marché dans une logique équitable, c'est-à-dire que tout le monde est contraint à la même chose. Et à ce moment-là, les choses se déclenchent. Et ensuite, il y a des envies partout. Seulement, il faut que le marché et la concurrence soient totalement équitables pour tout le monde et qu'elles soient demandées.
Très bien. Donc finalement, ce que vous venez de dire nous rappelle une réalité, c'est que le rôle de l'État, c'est aussi de fixer un cap, et que peut-être la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans la construction, ça commence par l'urbanisme. Jacques, alors c'est un petit peu tard maintenant parce que le Covid est passé par là, ça nous semble être une information peut-être un peu plus ancienne, mais juste avant le confinement, je vous rappelle quand même que notre ministre du Logement avait a sorti 10 mesures très intéressantes, hein, dont la construction bois fait partie, pour stimuler à la fois la réponse à la demande de logement, mais également le respecter les contraintes liées aux défis climatiques qui se posent à nous. Alors, Christophe, pour un architecte urbaniste comme vous, vous assurez la coordination de tous les architectes sur le lot E du village des athlètes, hein, donc un des lots du village olympique dans le cadre des appels d'offres lancés par la Solideo. Et ce lot E a été remporté par un consortium Nexity et Phage. Et je voulais savoir si vous aviez eu des contraintes spécifiques importantes sur ce projet du point de vue à la fois de l'urbanisme et du point de vue des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, effectivement, c'est un projet qui est très ambitieux et qui avait une nécessité carbone qui était très élevée et qui a amené, le groupement a choisi de répondre en bois. Nous, on n'y est pas étrangers, mais on fait partie de l'équipe qui conçoit ça. On est très contents. Pour moi, évidemment, le bois, c'est un des seuls puits carbone crédibles aujourd'hui, si on veut continuer à faire ce que la France sait faire, c'est-à-dire c'est un pays de constructeurs historiquement, un pays de grande nation de bâtiments et de construction. Et je pense que le bois, c'est une hypothèse intéressante. Donc c'est ce qu'on développe aujourd'hui sur le village olympique. Et il y a une vraie innovation pour plein de raisons. D'abord parce que les engagements qui ont été fournis par le groupement à la demande de la Solideo et puis tous ceux qu'on a proposés en plus sont assez exceptionnels, on fait pas ça. Et puis surtout sur l'échelle que ça développe, c'est-à-dire que c'est quand même un projet d'une grande ampleur qui doit être construit dans un calendrier très serré. Les Jeux Olympiques, c'est 15 jours, une date précise, et le lendemain, c'est fini. Enfin bon, voilà. Donc c'est un sujet qui est intéressant pour sa capacité à créer du process. Et en particulier, on sait que le bois est très familier de la préfabrication, et donc dans toute la capacité qu'on a à prévoir un bâtiment dans son dessin, dans son anticipation, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant aujourd'hui.
Alors, Christophe, vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez reconnu hein, dans la profession que la Solideo a mis la barre très haute et on en est très, très content. On espère juste que la commande publique, une fois le village construit, prenne elle aussi de la hauteur et intègre des critères environnementaux, pas uniquement noyés dans une note technique, comme on le voit malheureusement très souvent, mais des critères environnementaux qui puissent donner toutes leurs chances aux solutions bas carbone, aux solutions d'économie circulaire et aux solutions qui préservent la biodiversité. Pour répondre moi-même à des appels d'offres, je peux vous dire que très souvent, quand on a la chance d'avoir une note environnementale, elle ne distingue aucun de ces trois thèmes et c'est rarement plus de 5 à 10% de la note, alors que là, avec les appels d'offres du village olympique, on a atteint des sommets qui vraiment nous permettent de tirer les performances vers le haut. Alors, Christophe, j'ai encore une petite question pour vous. Je voudrais savoir, quelle partition le bois vous inspire-t-il, à votre avis? Est-ce une partition pour un seul instrument ou un concerto à plusieurs voix?
Bon, d'abord, il y a ce que Jacques Bouilleux vient d'exprimer, c'est-à-dire que le bois, c'est des techniques constructives multiples qu'on peut marier, qu'on peut assembler entre elles. Donc ça, nous, on a fait pas mal d'expériences pas que sur du logement, mais sur des équipements publics où on utilise du lamellé-collé parce que là, il y a une contrainte particulière, de l'ossature parce qu'il y a plus de... Mécaniquement, on est plus léger. Enfin, déjà, toutes ces techniques peuvent se marier. Après, c'est clair que le béton reste un matériau magique. Enfin, il faut le dire, moi qui suis un fervent militant du bois, plus on avance dans le développement technique du bois, et plus on s'aperçoit que il a des inconvénients en carbone qu'on voit apparaître aujourd'hui, mais néanmoins, quand il est nécessaire, il faut savoir l'utiliser. Le métal, c'est pareil. On a des sections qui sont plus faibles, on a des portées qui peuvent être plus grandes. L'intelligence, c'est comment on vient travailler les uns avec les autres.
Exactement.
Et si le carbone nous guide, on prend toujours la bonne décision, parce qu'il y a cette logique qui est le résultat à la fin, quoi.
C'est très intéressant ce que vous venez de dire, finalement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, on est un peu là aussi pour essayer de se donner du baume au cœur, hein, et de faire des propositions, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que chaque réponse à un appel d'offres puisse générer des variantes où, à l'aune des bilans carbone, on puisse mesurer l'évitement d'émissions de carbone à travers telle ou telle méthode constructive, mix matériotique, et comme vous le disiez, des arbitrages éclairés entre le type de matériaux qu'on associe ensemble pour un usage particulier?
L'exercice compliqué aujourd'hui, c'est que le savoir-faire français, je le disais précédemment, sur la construction et en particulier sur le béton, il est exceptionnel. On est un des pays dans le monde dans lequel on a une maîtrise absolue. On a construit des ouvrages d'art merveilleux, etc. Moi, c'est un matériau que j'affectionne tout particulièrement. On a fait des choses... Sur les grands précurseurs du béton français, on fait des choses extraordinaires et on continue aujourd'hui. Donc il n'est pas question de
dire... les opposer.
Voilà, de les opposer. Je pense que c'est deux techniques qu'il faut absolument... Après, la logique du carbone, il faut aujourd'hui, vous l'avez dit précédemment, structurer une filière bois. Donc il faut faire tout notre possible pour que le bois soit utilisé de manière massive et intelligente et que se structure derrière toute la structure primaire, forestière, secondaire. Et effectivement, le bilan carbone du bois ne sera vraiment parfait que lorsque la filière sera structurée de l'amont, quoi. Aujourd'hui, elle n'est pas... Contredire ce qui a été dit précédemment. Elle commence lentement à se mettre en place sur la filière forestière. Il y a encore vachement de boulot. Et c'est inévitablement la filière bâtiment qui la stimulera. Enfin, je veux dire, le bâtiment en France, c'est ce qui fait tourner l'économie. Et voilà.
Très bien. Alors, Christophe et Jacques, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission consacrée aux investisseurs et promoteurs. Sont-ils prêts à répondre à cette demande ?
Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie.
Donc on a bien compris l'amour que portent les urbanistes et les architectes de plus en plus à ce matériau noble et renouvelable que certains redécouvrent ou que d'autres traitaient, comme vous l'avez rappelé Christophe, depuis déjà plus de 30 ans, et qui plus est, matériaux qui nous rendent des services de stockage de carbone. Alors Jacques le disait plus tôt, il y a un certain nombre de questions réglementaires qui se posent aussi, qui sont en cours de résolution, et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés interviewer Stéphane Amery, directeur adjoint sécurité structure feu du Centre scientifique et technique du bâtiment.
Bonjour Stéphane Amery, vous êtes directeur adjoint de sécurité structure feu.
Bonjour.
Donc on vous appelle pour notre émission des villes et des hommes. J'aurais quelques questions à vous poser. La première, c'est le bois est-il champion en matière thermique et acoustique?
Alors pour répondre à cette question, je voudrais d'abord remettre le matériau dans un contexte. Parce que le matériau bois s'inscrit dans une triptyque matériaux, procédés, usages. C'est-à-dire que le matériau bois va s'intégrer dans un ouvrage, un mur, un plancher, et cet ouvrage va être utilisé pour un usage, un établissement recevant du public, un bâtiment d'habitation ou autre, et c'est l'ensemble de ce triptyque qui permet de répondre à votre question plus formellement. Une fois que j'ai dit ça, la construction bois, de manière générale, donc intégrant du bois, mais pas que, présente un certain nombre de performances intéressantes en termes de thermique et d'acoustique, oui, bien évidemment. On peut noter en particulier les caractéristiques pertinentes thermiques du matériau. C'est un matériau isolant, donc on peut s'attendre à des performances thermiques intéressantes. Et puis en acoustique, vis-à-vis des bruits aériens en particulier, les propriétés, les performances de ce matériau font que, au regard des usages et de l'utilisation dans la construction, on peut s'attendre à des performances intéressantes. A contrario, comme tout matériau, il a ses faiblesses. C'est le cas en thermique en particulier, où on évoque souvent les difficultés à maintenir ou à atteindre des niveaux de performance vis-à-vis de la thermique d'été. C'est un matériau qui a peu de masse, donc il n'est pas en capacité d'absorber beaucoup d'énergie. Et donc le confort d'été est un peu plus délicat à traiter. sur l'acoustique, de la même manière qu'on trouve des bénéfices sur la partie bruit aérien, sur les bruits d'impact et sur les performances à faible fréquence, on a là quelques aspects défavorables de ce matériau qu'il nous faut traiter, là encore, par la conception.
Et la deuxième question, c'est qu'en est-il de sa résistance au feu ?
Alors, de la même manière que pour les deux sujets thermiques et acoustiques, s'agissant de la résistance au feu, le matériau bois, dans certains contextes, va amener quelques difficultés, ce qu'on le sait tous. Le matériau bois est un matériau combustible. On ne peut pas y échapper. Je pense qu'on a tous eu l'occasion de faire un feu de cheminée dans notre vie. Pour autant, ça ne veut pas dire que le matériau employé correctement et avec une bonne conception ne peut pas apporter une performance réaliste en résistance au feu en particulier, car nous savons concevoir aujourd'hui des ouvrages dont la conception permet d'atteindre des stabilités au feu de l'ouvrage, hein, c'est-à-dire une non-ruine de l'ouvrage en situation d'incendie, sur des durées très importantes. C'est essentiellement un sujet de conception associé à des caractéristiques intrinsèques du matériau qui sont intéressantes, et je reviens à l'aspect d'ailleurs thermique, sachant que c'est un matériau isolant, eh bien, la chaleur va avoir du mal à pénétrer dans ce matériau, et en situation d'incendie, finalement, on ne va solliciter que la surface, que les premiers centimètres de ce matériau, laissant le cœur du matériau bois globalement à des niveaux de température que l'on pourrait considérer comme des températures normales, de l'ordre de 20 degrés Celsius, et les propriétés mécaniques ne sont dès lors pas affaiblies. Et ainsi, la résistance au feu est maintenue. Donc on voit là aussi, comme pour la thermique et l'acoustique, que sur les sujets de la sécurité incendie, il y a à la fois des éléments défavorables à l'utilisation de ce matériau, c'est son caractère combustible qu'il faut traiter par conception, et puis son caractère favorable qui est une très bonne réponse, une capacité à stabiliser l'ouvrage en situation d'incendie par ses propriétés physiques intrinsèques.
Merci beaucoup Stéphane Amery, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de sécurité structure feu, d'avoir répondu à nos questions pour l'émission des villes et des hommes.
Merci beaucoup.
Alors Jacques, une réaction au propos de Monsieur Amery ?
Bien, je pense qu'on a là un premier élément de réponse à votre question concernant les promoteurs et les investisseurs. Et sont-ils prêts à répondre à la demande ? S'ils acceptent de rentrer... en fait, quand on conçoit un bâtiment, il y a 5 fondamentaux. Il y a, on vient de parler de la thermique, de l'acoustique, du feu. Moi, je rajouterais l'eau et puis bien sûr la structure. Donc, ça fait 5 fondamentaux. Si l'investisseur ou le promoteur accepte de rentrer dans non pas dans la conception, mais en tout cas dans la compréhension des mécanismes qui prévalent à la conception du bâtiment. Alors oui, ils peuvent répondre à la demande. S'ils refusent de rentrer dans le jeu, ils vont se heurter aux difficultés qu'a évoqué Stéphane Amery, c'est-à-dire que en fait tout matériau a ses avantages et tout matériau a ses inconvénients. Le corpus aujourd'hui conceptuel français maîtrise très très bien le béton. Il y a plein de non-dits, parce qu'en fait ça fonctionne très très bien. Voilà. Dans le bois, c'est pas du tout ça. Dans le bois, il faut poser les problèmes, il faut accepter de concevoir très très en amont.
Oui. Donc c'est un management de projet à revoir.
Donc le management de projet est complètement à revoir, et puis il doit être pris très très tôt. Et je rajouterais qu'il peut difficilement être modifié dans le temps. Hein, ce qui n'est pas forcément le cas du béton. Le béton peut encore s'autoriser de faire dévier la conception à mi-chemin, on va dire. Dans le bois, c'est plus compliqué.
Finalement, si je comprends bien, le béton, c'est un peu une solution de facilité qui est bien pratique, bien connue, qui a permis, comme le disait tout à l'heure Christophe, des très belles réalisations. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'enjeu carbone qui vient challenger finalement le béton aujourd'hui au profit du bois ?
Alors, tout à fait. Christophe disait tout à l'heure que le béton est un produit fort intéressant. C'est vrai parce que, en fait, il chinte le sujet du feu, de l'acoustique et de la thermique.
Oui.
Voilà. Et il est maintenant challengé par le sujet du carbone. Voilà. Et donc on réapprend au travers du bois à reconcevoir des bâtiments, mais quel que soit le matériau.
Ouais. Très bien. Donc finalement, avec le bois, on a un certain nombre de contraintes à maîtriser qui peuvent se régler par une conception très en amont, très oui. soucieuse de la mise en avant des qualités physiques du bois, mais aussi de ses quelques inconvénients.
Tout à fait.
Donc finalement, ce qu'on gagne quelque part en carbone eh bien, nécessite un management de projet et des expertises beaucoup plus pointues.
Et je pense que le bois nous amorte. En fait, la conception bois, ce sont les prémices de ce que sera la conception générale de tous les bâtiments de demain. Voilà.
Très intéressant. Alors, finalement, mettre au point un bâtiment en bois, c'est un peu comme jouer une symphonie par un orchestre, si on reprend notre métaphore musicale de tout à l'heure. Donc, voilà, finalement, le chef d'orchestre sort renforcé.
Oui, oui. Il m'arrive souvent de croiser des équipes, alors, essentiellement du côté de l'immobilier. Et la question de fond, c'est qui est le chef d'orchestre ? Autant en béton, sur certains types d'ouvrages, on peut se passer de chef d'orchestre, autant là, c'est absolument impossible. Donc oui, il y avait un vrai sujet de chef d'orchestre, de management, de donner le rythme, de donner les harmonies, de savoir placer les bons instruments au bon moment. Oui.
Alors,
la métaphore est intéressante.
Christophe, quelle réaction ? Vous êtes chef d'orchestre de la construction bois ?
Oui, j'essaye. De temps en temps, des fois, je chante faux, mais ça, sinon, globalement, on y arrive. Je reprendrai ce que disait Jacques à l'instant. Je pense que le béton est tellement ancré dans les mœurs et tellement dans les habitudes constructives que plus personne ne se pose de questions. Les choses sont comme ça, et on ne s'aperçoit même pas qu'on a des contraintes, puisqu'on les a déjà résolues il y a longtemps, donc on ne s'en aperçoit même plus, ça s'est rentré dans une espèce de processus naturel, un peu comme la marche, quoi. Et subitement, on nous demande de courir, donc on est essoufflé, donc voilà. Bon, le bois, c'est un peu ça le principe, c'est qu'on a tendance à prendre tous les avantages du bois, qui sont ceux qui ont été évoqués, plus d'autres. On peut faire des portées intéressantes, c'est léger, ça a une descente de charge qui est beaucoup plus... la contrainte sur les fondations est beaucoup plus faible, etc. Une fois qu'on a pris tous ces avantages-là, on dit « bon, ben, c'est super », mais on dit « attendez, il y a des contraintes ». Et on a tendance à oublier que, oui, on est dans une autre règle du jeu, que ces contraintes sont à prendre en compte et que, effectivement... Moi, je pense que, effectivement, on est dans les constructions de demain pour deux choses. La première, c'est la pénibilité. Si on part de l'origine, l'acte de construire est un acte pénible. Enfin, il suffit, moi qui fréquente beaucoup les chantiers, je suis à chaque fois surpris de voir que couler du béton, c'est un acte qui n'est pas facile. Il fait froid, il pleut, il neige, etc. Et fatalement, on est dans des us et coutumes un peu ancestraux sur le chantier. On est resté très... C'est un côté très positif et puis un côté un peu inquiétant. On est en tout cas en décalage avec ce que l'homme est capable de faire ailleurs dans l'industrie. Et le bois, c'est effectivement plus de préfabrication, plus d'études en amont et plus de précision. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire sur l'industrie de tout type et qu'on n'est pas encore arrivé à faire sur le bâtiment. Donc c'est inévitablement un chemin qu'il va falloir tracer, quoi.
Très bien. Je voulais vous poser une question à tous les deux. Finalement, vous côtoyez les investisseurs, les promoteurs sont vos premiers clients. Est-ce qu'ils sont séduits, méfiants ? Est-ce que vous voyez des différences dans les régions ? Est-ce que, en fonction du marché immobilier et de sa maturité, est-ce qu'on a des appétences particulières de la part des promoteurs et des investisseurs pour la construction bois ?
Vas-y, je t'en prie. Sur les promoteurs, je dirais que c'est un monde concurrentiel. Donc c'est comme un sport, hein. C'est assez basique. C'est-à-dire que si les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, la concurrence est à égalité, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la concurrence n'est pas vraiment à égalité, puisqu'on demande de faire des propositions qui sont différenciées, ce que vous expliquiez assez simplement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut, par des biais différents, arriver au même chemin. Je pense qu'il faut effectivement que notre réglementation, que notre système, disons, réglementaire soit beaucoup plus lisible, qu'on n'hésite pas à légiférer. Il vaut mieux une loi contraignante que pas de loi. Enfin, c'est la France, ça. Donc si on dit « c'est comme ça », la RT 2020, elle dit « carbone, c'est ça », on aura tous la même règle du jeu. Et je pense que les promoteurs s'en porteront pas plus mal, puisque de toute façon, la concurrence et la règle du jeu est la même. Aujourd'hui, un promoteur, il est lié à une activité à risque. Il n'a pas envie de faire différemment de ce qu'il sait faire. Oui. Il n'a pas envie de proposer quelque chose d'innovant au risque de se retrouver avec des problèmes. Donc, c'est pas son rôle, j'ai envie de dire. Moi, je le déplore, hein, mais c'est pas son rôle de prendre un risque. Il est là pour répondre à une demande, etc. Je pense qu'un état de droit à la française, on n'est pas en Autriche, on n'est pas dans les pays du Nord. Il faut qu'il y ait un truc qui soit très encadré. Et on y vient, hein.
Après, je pense qu'il y a aussi, en complément, la volonté de certaines régions, de certains aménageurs qui vont être en anticipation par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Et aujourd'hui, on voit quand même trois grands axes s'ouvrir. Le premier, c'est effectivement le recours au bois.
Mais ça dans les appels d'offres.
Dans les appels d'offres, voilà, c'est ça. Dans le cahier des charges, en fait, général de l'aménageur. On va retrouver également les matériaux biosourcés, qui sont en relation étroite avec le bois, hein, faut pas se mentir de ce point de vue-là. Et puis, moins précisé, parce qu'encore un peu flou, mais on sent quand même une vague de fond, qui est donc le label Le Plus C'est Moins, mm-hmm. Enfin, en tout cas des labels énergético-carbonés. Où là encore, la région ou l'aménageur d'une grande zone, hein, c'est un aménageur qui soit politiquement impliqué dans le territoire, vont influencer le rôle des promoteurs. Et là, je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où la règle est valable pour tous, il n'y aura pas de distorsion concurrentielle puisque tout le monde parle sur le même terrain de jeu. Et moi, je trouve que les promoteurs, à partir du moment où les règles sont à peu près claires, jouent le jeu, globalement. Oui, jouent le jeu.
Finalement, il est question de doter les régions d'un budget carbone, c'est-à-dire, à l'instar de la stratégie nationale bas carbone et du budget carbone de l'État, de permettre aux régions d'avoir un quota de carbone à dépenser, si je puis dire. Est-ce que ce type d'initiative ne concourrait pas naturellement à faire en sorte que les appels d'offres se préoccupent davantage d'intégrer la contrainte carbone comme un critère réellement déterminant et qui nous permettrait, du coup, de booster la construction
d'eau ? Je pense qu'il faut des objectifs en cascade, oui. Il faut redescendre jusqu'à la ville même.
Jusqu'à la ville.
Des villes et des hommes, le débat, troisième partie.
Alors, nous arrivons à la dernière partie de notre émission qui sera consacrée à la pertinence de la réponse bois dans un double contexte, à la fois le besoin de logement, notamment dans des agglomérations qui sont sous tension importante en matière d'offres de logement, et puis évidemment la prise en compte des conséquences du dérèglement climatique. Alors, les constats sont différents en fonction des régions, hein, on l'a dit, donc on va plutôt parler des besoins de densification des grandes agglomérations qui restent très attractives et qui peinent à offrir des logements abordables dans un contexte où le foncier urbain est extrêmement cher parce que de plus en plus rare. Alors, dans ce contexte de densification urbaine, les bâtiments de hauteur sont l'objet de toutes les attentions médiatiques, on peut le dire, et finalement, est-ce que cela sert la cause du bois ou est-ce que cela la dessert ? Christophe, votre point de vue d'architecte sur les bâtiments de bois de grande hauteur et peut-être quelques exemples dans le monde aussi.
Oui, d'architecte et d'urbaniste, juste une petite question à se poser tous sur la densité assez élevée auquel on est arrivé dans nos métropoles. Oui. Même si on n'est pas encore Tokyo ou Séoul, on a Paris est une des métropoles les plus denses
du monde.
Hein. Je pense que les événements qu'on a vécu récemment nous illustrent encore plus que cette densité devient critique. Donc moi, je suis assez, mitigé sur l'idée de l'ultra-densité à laquelle on essaye de nous faire aboutir. Sur la capacité à faire de la grande hauteur en bois, le sujet est un peu différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'incitation à faire des choses un peu innovantes dans cette filière. On a besoin de la challenger pour qu'elle arrive à démontrer qu'elle sait faire des choses extraordinaires. Donc oui, je suis favorable à ce qu'on teste des choses un peu emblématiques dont le bilan carbone sera bon. Néanmoins, dans l'avenir, je pense que c'est pas l'avenir. On sait très bien que plus on est vertical et plus on consomme, bon, monter des fluides jusqu'au très haut, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc je pense que c'est pas une piste d'avenir, c'est une piste, disons, immédiate de démonstrateur et qu'il faut manier avec parcimonie. Voilà. Mais je pense qu'il faut sans doute imaginer un système urbain un tout petit peu plus apaisé.
Très bien. Finalement, la France n'est pas en retard sur ces démonstrateurs ?
Alors, ça, c'est oui, c'est la deuxième illustration. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je voyage pas mal et on essaye depuis de nombreuses années de voir ce qui se passe à l'étranger. Donc, on a souvent tendance à dire, ah oui, les Autrichiens font des choses, les Norvégiens font des choses. C'est vrai, il y a des choses assez intéressantes qu'on regarde avec intérêt, mais on n'est pas en retard. Enfin, on est même c'est ce que j'essayais d'illustrer tout à l'heure, notre savoir de pays bâtisseur s'est montré extrêmement réactif sur les sujets du bois très rapidement. voilà, on s'est arbitré, on s'est disons organisé un système constructif et on a fait pas mal de choses. On était au salon à Québec cet hiver là pour voir ce que l'Amérique du Nord était en train de faire. Globalement, ils sont exactement dans les mêmes problématiques que nous. C'est un pays qui est beaucoup plus grand et qui a une capacité de recherche et développement un peu supérieure à nous. Mais pour l'instant, on est encore dans la course. Et ça, c'est bon signe. Et moi, je serais assez militant pour qu'on y reste.
Bien sûr. Alors, Jacques, vous nous parlez tout à l'heure d'Hyperion, qui va culminer à plus de 50 mètres. Christophe apporte aussi un point de vue, disons, appelle un peu à la modération en matière de densification. Finalement, qu'est-ce que vous pensez des bâtiments de plus de 28 mètres ? Je crois que vous m'avez dit en préparant cette émission, les bâtiments de plus de 28 mètres sont au monde de la construction ce que la Formule 1 est à l'automobile. C'est tellement beau, je n'ai pas pu m'empêcher. Je pense que je vais me l'approprier. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ce point de vue ?
Quand on fait la tour Hyperion, quand on traite les 5 fondamentaux, même avec le 6e qui est le carbone, où on est obligé de réfléchir, de re-questionner le bois, on est dans des problématiques exactement identiques à celles des compétiteurs de la Formule 1. Pour autant, et là je rejoins complètement Christophe, est-ce que c'est ça qui va faire vivre les 40 000 salariés que représente l'UICB ?
Oui.
Non, bien sûr que non. Non. Aujourd'hui, dans le bâtiment, d'une façon générale, on peut dire, là je parle sous couvert de Christophe, mais je pense qu'on a à peu près 90% du marché se situe à moins de 28 mètres.
Oui.
Et puis, quand on retire la maison individuelle et le petit collectif, on a à peu près un bon 40-50%. Alors, donc, 28 mètres, c'est 7-8 étages maximum. Voilà. Et puis, ça va bien avec le sujet de la densité de la ville. Donc, la question est plutôt de savoir, quand on fait des bâtiments de hauteur, est-ce que ça va diffuser sur en forme de parapluie, enfin en forme de bruine, comme vous voulez, sur les bâtiments de plus faible hauteur.
Oui, oui. Alors, on comprend bien la notion de démonstrateur qui va susciter l'intérêt.
Exactement, qui va pousser la R&D. Mm-hmm. Voilà. Alors, je pense que oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je pense que oui, si on s'arrête à 50 mètres, parce qu'on va justement, la chose que j'évoquais tout à l'heure, on va aider les matériaux à monter. Donc tous les matériaux périphériques au bois, par exemple tous les matériaux de finition, de façade, etc. Oui, donc quand on va travailler ce sujet-là, bah forcément, quand on a fait 50 mètres, on peut faire 28 mètres. Est-ce que de faire une tour de 100 mètres va apporter quelque chose au monde du bois ? Alors là, vraiment, j'ai un gros doute.
Non, mais on va dire que c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà.
On va dire ça.
Alors, je voudrais aborder un dernier point, c'est la construction bois dans le contexte du changement climatique. On a dit beaucoup de choses, mais entre exigence bas carbone dans la construction, recours aux matières renouvelables et réalité économique, est-ce que le bois est la réponse ou une des réponses au réchauffement climatique ? Peut-être en duo ? Christophe ?
Moi, je commencerai par le sujet de la frugalité, parce qu'on parlait de la conception en amont. Clairement, un matériau décarboné parfait, c'est celui qu'on met pas. Voilà, donc on peut pas faire moins décarboné que ça. et donc aujourd'hui, en conception amont, et c'est tout à fait en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, et ça ressent, ça c'est du ressort du promoteur également. Hein, c'est vraiment une co-conception. Il faut essayer d'en mettre le moins possible, au plus juste. Donc ça, c'est pour moi le premier élément. Et si j'avais un exemple à citer, parce que c'est du vécu de ce matin, se pose par exemple la question des parkings en sous-sol. Voilà. Est-ce que le parking en sous-sol, du point de vue du carbone, a un sens ? Voilà. Je laisse j'ai mes idées de réponse, mais je laisse la question ouverte.
Je vais le faire. Illustrer ce que dit Jacques, donc je partage totalement. La première chose, la frugalité, j'ai envie de dire, dans les 20 dernières années, on a un peu pris nos aises, mais partout. C'est-à-dire qu'on s'est mis à avoir 4 écrans par famille, des réfrigérateurs qui font... Enfin, bon, ce qu'on regardait chez les Américains avec stupéfaction est arrivé chez nous sans qu'on s'en rende compte. Ça vaut pour le bâtiment. Nous, ce qu'on construit, on fait d'abord un travail de grand nettoyage. C'est-à-dire qu'on essaie d'enlever tout ce qui dépasse, qui sert à rien. On a des habillages, des flocages, des machins. Il y a des choses qui servent, il y a des choses qui ne servent pas à rien. Donc la frugalité passe aussi par une lecture. Et ça, nous, ça nous amène directement à dire que les matériaux qu'on utilise pour construire peuvent être révélés. Ça permet aux gens qui les habitent et les fréquentent de les comprendre. Et ça, c'est important sur la façon de s'approprier son lieu. Moi, je suis très, très, très convaincu de ça et ça marche très bien. Quand on fait un gymnase et que subitement, on s'aperçoit que cette poutre, elle est visible, voilà. Ça amène aussi une intelligence dans la façon d'habiter. Ça, c'est la première chose. Donc, frugalité égale aussi un tout petit peu de raison. Et il faut habituer aussi le consommateur, l'habitant, à lui dire que tous ces espèces de gadgets, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers le... Moi, je suis un vrai geek, donc je milite pour ça aussi. Mais il faut essayer de se sortir et de revenir à l'essentiel. Ça, c'est la première chose sur la frugalité. Et sur la logique de la... Le deuxième point qu'évoquait Jacques, qui m'intéresse aussi, c'est que dans le bilan carbone, c'est ça que la norme nous apporte, c'est que ça nous permet de calculer. Quand on fait nos calculs plus c'est moins, on s'aperçoit que l'impact du terrassement et du sous-sol, il est quasiment sur du R plus 4, il est totalement fondamental. C'est là qu'on gagne le carbone. Ouais.
Tout à fait. Peut-être aussi travailler l'enveloppe et l'énergie du bâtiment, Jacques.
Oui, oui. Alors, on n'a pas en parlé de bois pour l'instant.
Hein, oui. Mais,
donc oui, c'est certainement le deuxième point. La question, c'est l'échelle. À quelle échelle doit-on travailler pour apporter l'énergie au bâtiment? Et là, moi, je reste persuadé que aujourd'hui, la ZAC reste la bonne unité de valeur.
Donc, l'échelle du quartier.
Oui, l'échelle du quartier. Et donc, le plus décarboné sera l'énergie fournie et mieux le bâtiment s'en portera. Évidemment, tout ça va avec l'enveloppe. Et là, dans les enveloppes, aujourd'hui, il y a plusieurs sujets s'entrechoquent parce que, par exemple, il ne vous a pas échappé l'accident de Greenfield il y a 2 ans. Donc, il y a une problématique de feu, de propagation par le feu. Mais pour autant, il faudrait quand même qu'on réussisse à garder la perspirance des bâtiments. Mmh. Donc, comment on fait une enveloppe qui répond au feu, mais qui soit, qui a un apport en termes de perspirance? Et puis l'acoustique, parce qu'en zone urbaine, on a des sujets d'acoustique qui sont assez forts. Donc aujourd'hui, tout. Et bien sûr, la résistance thermique, enfin l'étanchéité à la fois thermique et à l'air. Mais tout ça pour dire qu'il y a des très, très gros enjeux au sujet de l'enveloppe. Et là, pour le coup, le bois a vraiment son rôle à jouer, surtout si on y incorpore des matériaux biosourcés.
Donc c'est un peu le bon matériau au bon endroit, finalement.
Ah oui, clairement.
Le tout dans un management de projet qui anticipe et qui soit très pointu. Alors, merci messieurs. Je vais tenter une conclusion de nos débats. Alors, je retiens in fine que le matériau bois, qui est connu ancestralement dans quasiment toutes les sociétés humaines, nous invite aujourd'hui à une relecture contemporaine et aussi à une révolution systémique, à la fois une révolution dans la formation des acteurs de l'acte de construire, depuis nos compagnons, parce que ça aussi, on ne l'a pas beaucoup dit, mais on a beaucoup de compagnons qu'il va falloir
tout à fait.
Disons, non pas reconvertir, mais des compagnons qui ont eu l'habitude, comme le disait M. Ouayoun, de travailler un peu les yeux fermés, le béton, et maintenant devoir travailler de façon mixte, béton, bois, voire uniquement bois, jusqu'aux architectes urbanistes qui redécouvrent aussi ce matériau, mais ça reste encore, on va dire, hétérogène. Et puis la révolution dans la gestion de la ressource forestière et de l'innovation en matière de transformation du bois, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit sur la traçabilité et sur les brevets importants qui sont en train de sortir dans les méthodes constructives en bois. La révolution dans le management de projet, que ce soit à l'échelle de l'aménageur, mais aussi à l'échelle du projet bâtimentaire. Et puis une révolution dans l'approche solidaire entre efficacité énergétique et sobriété carbone. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Parfait, je vous remercie infiniment, messieurs, pour ce plaidoyer éclairé et expert pour la construction bois dans un contexte de défis climatiques.
Merci beaucoup.
Merci.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.